Bueno, Juan Pablo, presiento que vamos a disfrutar este momento muchísimo, sobre todo nuestras compañeras, aquellas que se preocupan por el envejecimiento. Envejecimiento. Contamos del Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento más importante del mundo. Se inauguró anoche y termina mañana. Se celebra en el Foro Grimaldi, en el Principado de Mónaco, en Monte Carlo. ¿Cuál es el titular? Arrancó con la siguiente frase: el envejecimiento se puede tratar. La Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad. En este congreso, hoy, hay 12.000 especialistas de 130 países. El director científico es el doctor Claude Dallé. ¿Estaremos diciendo bien el apellido, Juan Pablo?
Es Claude Dall, sí, Dall.
Claude Dall,
sí, Dall. Claude Dall.
Claude Dall.
No sé por qué aquí en un papel me lo pusieron con G, pero es Dall, con D.
Dall, ok, con D, perfecto. El doctor tiene diplomados en acupuntura, mesoterapia, hipnosis, es líder en cursos en la Facultad de Medicina de París, es director científico del Congreso y es presidente de la Sociedad Mundial de Disciplinas Antienvejecimiento y Medicina Antienvejecimiento. Es el presidente de la Federación Europea de la Edad Activa. Es integrante del International Hair Research Society. Ah, ese nos interesa, Juan Pablo. Tiene tres libros: Antiedad, la guía, Tratamientos Antiedad y el último, que se llama Piel y Antiedad. Así es de que aquí viene el gran debate: si hay que envejecer con dignidad o si hay que envejecer con dignidad, pero si es una enfermedad, acudir a la ciencia. La fórmula se llama 4P. Por favor, Juan Pablo, sobre todo en la mitad del foro, sacar al director científico es un absoluto honor y privilegio para nuestra audiencia. Salude al doctor en nombre de muchas personas que les preocupa envejecer.
Monsieur, non, excusez-moi, docteur Claude Dall, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio.
Bonjour.
Pregunta es, ¿por qué el envejecimiento es una enfermedad? ¿Cuál es la explicación más sencilla que nos podría dar?
Docteur Dall, comment pouvez-vous nous expliquer d'une façon simple le fait que l'OMS soit déjà en train de dire que vieillir, c'est une maladie?
L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a reconnu à partir de cette année que le vieillissement était une maladie. Ça veut dire qu'il y a un traitement. Quand on reconnaît une maladie, ça veut dire qu'on a des traitements ou on espère des traitements à venir. Donc c'est très important. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de naturel, c'est considéré comme quelque chose sur lequel on peut avoir la médecine moderne, la chirurgie moderne peut avoir un impact sur le vieillissement. Donc c'est une décision très importante de l'OMS et ça correspond aux avancées de la science qu'il y a eu depuis, 20 ans et particulièrement les 5 dernières années qui ont vu des avancées magistrales dans la physiologie, dans la compréhension des vieillissements.
Pues nos dice el doctor Dall que efectivamente fue este año que la Organización Mundial de la Salud determinó que envejecer o el envejecimiento es una enfermedad. ¿Qué significa esto? Al decir que es una enfermedad, que hay un tratamiento o que se podría esperar que a través de la ciencia se pueda llegar a un tratamiento para contener el envejecimiento. Eso es algo sobre lo cual la medicina, la cirugía, los procesos quirúrgicos pueden llegar a tener un impacto. Y esto es una conclusión, según los avances que se han conseguido en las últimas décadas, los últimos 20 años, que demuestran que sí hay forma de contener el proceso de envejecimiento.
Quiero detenerme en esa parte de la respuesta final, Juan Pablo. Las enfermedades se tratan con tratamientos médicos, se siguen protocolos con medicamentos, pero hay enfermedades que requieren de cirugía. ¿Esto quiere decir que dentro de los distintos escenarios para luchar con la enfermedad de la vejez se considera la cirugía?
Docteur Dahl, mais on voudrait essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe, ce qu'il y a derrière le fait de considérer le vieillissement comme une maladie. Parce que vous parlez de traitement, mais traitement, c'est alors quoi ? Doit-on s'attendre à des chirurgies qui puissent arrêter le vieillissement ? Qu'est-ce que l'on peut considérer comme traitement ?
Alors, on peut considérer comme traitement. L'OMS a considéré que pour le moment, le maximum de la longévité humaine, probablement l'immédiat ne va pas changer. Ça a l'air d'être à peu près 120 ans. Ce maximum actuellement ne change pas. Il va changer dans les années à venir, peut-être dans 5 ou 6 ans, ça va commencer à changer. Mais actuellement, ce qu'on peut faire, c'est de réduire la morbidité, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous allez être malade avant de mourir. Actuellement, les gens sont malades pendant au moins 20 ans avant de mourir. 20, 25 ans avant leur mort. Ils commencent à avoir des maladies pendant toute cette durée-là. Le but de la médecine, c'est de réduire cette période. Au lieu d'être malade 5 ans ou d'être malade 20 ans, vous allez être malade un mois, juste le mois avant de mourir. Et on commence à voir des gens qui vivent comme ça. Des gens très âgés. J'ai une de mes belles-mères là, qui vient de mourir, car elle a été malade un mois dans sa vie. Mon beau-père, il a 96 ans, il n'a jamais été malade, il a eu un cancer d'après 38 ans, on lui a guéri, conduit sa voiture, il a dit qu'on a toutes ses courses, voilà. Donc, traverse la France, ces gens-là, on va en faire de plus en plus. Et c'est ça qui est intéressant dans la médecine du voyage. C'est de réduire la période de votre vie si vous allez être malade. Actuellement, un homme ou une femme est malade à partir de 63-65 ans. Tout le monde commence à avoir une maladie à cet âge-là. Les gens accumulent les pathologies. Ils vivent évidemment jusqu'à 85-90 ans, mais avec beaucoup de maladies. À l'arrivée, ils sont malades sans arrêt. Ça, on va le réduire. Parce qu'on a les médicaments, on connaît les styles de vie, on sait ce qu'il faut faire par rapport au sommeil, par rapport à l'exercice physique, par rapport à la nutrition, par rapport à même la manière de penser, etc. On connaît beaucoup de voies qui fonctionnent. Et quand vous accumulez tous les gains que vous pouvez avoir par la nutrition, l'exercice physique, le sommeil, etc., etc., quelques médicaments ou des molécules, vous accumulez des années de bien-être et vous réduisez la période où vous êtes malade. Vous la réduisez de manière extrême. C'est ça la médecine du vieillissement. C'est pas ne pas mourir, c'est ne plus être malade, être très peu malade dans sa vie.
Bueno, nos dice el doctor Dahl que, a ver, desde el momento que la OMS empieza a considerar que el envejecimiento es una enfermedad, hay que partir de un punto, y es que la longevidad es algo que no cambia. O sea, hoy por hoy podríamos estar hablando de que la longevidad humana sería aproximadamente de 120 años. Dice él que en los próximos 5 o 10 años eso seguramente va a cambiar. Pero ¿qué es lo más importante acá? Conseguir que esa enfermedad, que es envejecer, que hoy por hoy puede estar durando 20 o 25 años antes de morirse, pues se puede reducir hasta el punto que los verdaderos síntomas ya de la llegada de la muerte se pueden dejar en un mes y antes de ello vivir normalmente. Es decir, hablar de un tratamiento contra el envejecimiento es sencillamente reducir el periodo durante el cual se va a estar enfermo antes de morir. Y entonces nos explica él, hoy, a partir de los 65 años, empiezan a acumularse las patologías. Patologías de todo tipo que empiezan a sumarse una tras otra tras otra. Eso se puede reducir. Se puede reducir a través de mejoras en las condiciones del sueño, mejoras en la nutrición, recomendaciones para ejercitarse o medicamentos. Y ahí es donde él se detiene. ahí es donde la ciencia y la medicina pueden hacer lo suyo, porque nos dice él, claro, más allá de las recomendaciones que se puedan hacer para dormir mejor o comer mejor, también hay medicamentos que logran evitar que todas esas enfermedades que hacen parte del proceso de envejecimiento se contengan. Ahora, nos dice él, lo que puede y lo que podrá hacer la medicina no es evitar morir, pero sí es vivir mucho mejor por mucho más tiempo.
¿A partir de qué edad, Juan Pablo, tiene uno que preocuparse o atender esta enfermedad, el envejecimiento? Y es, si es igual esta edad para hombres y mujeres.
Est-ce que l'on peut déjà dire qu'il y a un âge à partir duquel on doit commencer déjà un traitement contre le vieillissement? Et est-ce que cet âge est le même pour l'homme que pour la femme?
Alors, l'âge où on doit commencer à prendre des mesures, c'est sûrement l'âge du milieu de la vie, 50 ans. Beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Parce que quand la ménopause est installée, il y a beaucoup de choses qui se dégradent dans le corps d'une femme, parce qu'il y a une privation des hormones. Cette privation d'hormones, elle est plus lente chez l'homme, mais on sait que c'est autour, dans les deux siècles, c'est autour de 50 ans que les choses se jouent. Et aujourd'hui, il y a eu des communications, par exemple, il y a une étude qui est sortie qui montre qu'on commence à se dégrader à partir de 38 ans à peu près. Mais on ne le ressent pas avant 50 ans. On le ressent vraiment quand les hormones s'en vont à partir de 50 ans. Avant, on sent la fatigue, mais on ne sent pas vraiment la faim et on ne sent pas vraiment ce qui se passe. En gros, c'est 50 ans et probablement un petit peu avant. Il faudrait que tout le monde consulte autour de la ménopause et de l'andropause pour la cinquantaine. Et on sait maintenant que si on rate cet âge-là, on va avoir des problèmes à partir de 65 à peu près. Si on ne rate pas le virage de la cinquantaine, entre autres sur le plan du sommeil, sur le plan métabolique, sur le plan des reins, etc., si on ne rate pas toute sa place, ça risque d'aller vraiment bien pour les 30 ans à venir.
Pues nos dice que las medidas tienen que empezar a tomarse, Florencia, más o menos desde la mitad de la vida, es decir, 50 años. Es más claro esto para las mujeres que para los hombres, toda vez que las mujeres tienen el comienzo de la menopausia o la menopausia, que además implica una gran cantidad de cambios hormonales para las mujeres, que son además un indicador de que algo se tiene que hacer. En el caso de los hombres, de todas formas, también está la andropausia, que implica un cambio hormonal. Es ahí cuando todo empieza a cambiar, tanto para hombres como mujeres, y entonces desde ahí es que toca empezar a tomar medidas para tener un envejecimiento mucho mejor. Ahora, si él, según los estudios que él ha revisado, la realidad es que todos estos cambios empiezan es a los 38 años. Es decir, a partir de esa edad, todo empieza a degradarse para los humanos. Pero, nos dice él, la clave es 50 años, tal vez un poco antes, pero ese momento, cuando ya empieza a darse el verdadero cambio hormonal, es cuando usted tiene que empezar a tomar medidas para evitar que cuando llegue a los 65 o un poco más allá, comiencen todas las enfermedades y todas las dolencias que vienen de la mano del envejecer.
Juan Pablo, pregúntele si a él no le preocupa que este tipo de declaración termine por discriminar un poco, por hacer ver con más negatividad el hecho de envejecer. Digamos que personas que ya no recurrieron a esta opción que ellos dan, personas que están envejeciendo por el paso normal de la vida, pues que ahora se les mire aún más feo porque se le considere que envejecer es una enfermedad.
Doctor Dahl, mais dire que vieillir c'est une maladie, ça ne pourrait pas peut-être avoir un effet négatif pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui ont plus de 65 ans, 70 ans, et qui alors vont être vus par le monde en général comme des malades?
Non, parce qu'on sait que si on intervient, quel que soit l'âge, on a quand même un effet. On a moins d'effets si on intervient à 80 ans que si on intervient à 40, mais on a quand même de l'effet. On peut quand même améliorer la vie des gens. C'est ce que fait la médecine classique. Mais le problème de la médecine classique, c'est qu'elle traite les maladies quand vous avez la maladie. La médecine anti-âge, elle fait de la prévention. Elle cherche à repérer les maladies que vous allez avoir et elle cherche à vous empêcher de les avoir ou à les ralentir. C'est ça la grosse différence entre la médecine classique, la médecine de tous les états pratiques, qui est une médecine curative. La médecine anti-âge, c'est une médecine préventive. Si par exemple, on sent que vous allez avoir un diabète ou une maladie cardiovasculaire, on peut très souvent vous éviter de l'avoir. Ça fonctionne. Donc c'est ça l'avantage. Évidemment, si vous venez à 80 ans ou 90 ans, il y a beaucoup de dégâts et on fera moins de réparations. C'est comme si vous amenez votre voiture avec tout ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur, ça peut on aura beaucoup de mal à tout vous réparer. Mais si vous arrivez à 40 ans ou 50 ans avec seulement quelques petits problèmes et qu'on peut surtout détecter les problèmes que vous risquez d'avoir dans l'avenir, là on peut être beaucoup plus efficace.
Pues nos dice
d'ailleurs, on commence à voir des patients qu'on traite depuis 20 ans, par exemple, ceux qui suivent vraiment bien les recommandations et tout, et dans l'ensemble, ils vont beaucoup mieux que les personnes de leur même âge qui n'ont rien fait. Il y a vraiment une différence. Un quelqu'un qui a suivi les recommandations pendant 10 ans, il a une grosse différence par rapport à la même personne qui n'a rien fait pendant 10 ans. Ça, c'est très net.
Pues nos dice que non. Que no, Ana, de ninguna manera, porque aquí se trata es de prevenir. Entonces, desde la perspectiva médica, si uno interviene la salud o si uno toma medidas para prevenir o para atender enfermedades a cualquier edad, pues lo que se busca es precisamente eso, contener una enfermedad. Ahora, sea cual sea esta, el efecto será mucho menos efectivo, digámoslo así, si usted empieza a tratar una enfermedad a los 85 años que a los 40, cuando ya podía de pronto estarla anticipando. Entonces nos dice él, aquí no estamos apostándole a una medicina que atiende el problema cuando ya se presenta, sino al contrario, es medicina preventiva para evitar los problemas que pueden llegar a generar cualquier tipo de enfermedad cuando usted la ataja o cuando usted la contiene o cuando usted empieza a prevenirla desde que esta empieza a mostrar sus primeros síntomas. Y nos da dos ejemplos. Pasa con, por ejemplo, la diabetes o con enfermedades cardiovasculares. No es lo mismo que usted empiece a tratarlo desde una edad temprana, cuando esta apenas está empezando a evidenciarse, que esperar a que estos ya estén empezando a mostrar unos síntomas mucho más graves para su cuerpo. Y nos da el ejemplo con un carro. No es lo mismo que usted lleve a su carro a un control regular o a una revisión regular para que le vayan haciendo el mantenimiento constante, de tal forma que cuando ya llegue ese carro a una edad avanzada, 40 años, 50 años, pues habiéndole hecho un mantenimiento preventivo, pues los daños sean mayores, a llegar usted al taller con un carro que tiene todo fallando y entonces espere que todo se lo van a arreglar. No es lo mismo. Así que dice él, es mejor empezar desde joven a tomar las pastillas, a tomar los tratamientos, a reconocer que usted tiene una enfermedad y empezar a tratarla, a esperar a llegar a viejo y que todos los males se le hayan acumulado.
Juan Pablo, pregúntele por favor al doctor Gal si los tratamientos que él propone son solo de carácter estético, es decir, para cuidarse externamente, o si propone también algo para el cuidado interno, por ejemplo, de los órganos.
Docteur Dahl, mais jusqu'à quel point peut-on dire que cette idée de éviter le vieillissement, ou plutôt de faire face à le vieillissement comme une maladie, c'est quelque chose qui a plutôt une relation avec l'esthétique que avec le fait de faire du bien aux organes internes de l'être humain?
Ah non, moi je vous parle là, je vous parle pas des statistiques, je vous parle des organes. Je vous parle de l'intérieur de votre corps. Moi je vous parle pas des statistiques. Les statistiques c'est autre chose, c'est un autre problème. Ça c'est votre apparence. Moi je vous parle de votre santé globale, de la santé de tous vos organes. Je vous parle de cette médecine anti-âge là. Il y a deux parties dans la médecine anti-âge. Il y a une partie interne, les organes, le fonctionnement de vos cellules, donc votre vraie santé en fait. Et puis il y a une deuxième partie, c'est votre apparence extérieure. Et les deux vont ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ne font que l'apparence extérieure, ils ne s'occupent pas de l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est totalement différent. Et ils vont évidemment avoir tout un tas de problèmes. On peut combiner les deux. Mais d'ailleurs, quand vous traitez l'intérieur, vous avez un reflet sur l'extérieur. Ça se voit extérieurement. Est-ce que vous restez plus mince, vous êtes plus alerte? C'est bien dit, votre peau est plus jeune, etc., etc. Vous gardez vos cheveux, enfin, là, il se passe beaucoup de choses quand vous faites les traitements anti-âge. Mais il ne faut pas confondre les deux. L'apparence, l'aspect extérieur, c'est tout simplement une apparence pour la société où on est, et l'aspect intérieur. Si les gens voyaient leur aspect intérieur, ils auraient peur. Si vous aviez, vous pouviez ressentir la douleur de vos organes, il y a beaucoup de gens qui crieraient à la douleur, qui auraient très très mal. Les gens qui mangent trop, ils sont sur toi, ils devraient hurler. Leurs organes sont en train de hurler. Eux, ils ne le sentent pas. Et ça fonctionne, ça agit. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on fait, on s'occupe de l'intérieur du corps, pas de l'extérieur. Et évidemment que ça a un impact sur l'extérieur.
Nos dice el doctor Dahl que absolutamente, que de hecho él no habla aquí del tema estético, que es completamente distinto, aunque se conecte, ya nos explica por qué, pero nos dice no, él está hablando desde el cuerpo en su interior, está hablando de los órganos, nos dice de la salud de todos los órganos al interior del cuerpo humano. Él está preocupado en un tema de salud antiedad por el funcionamiento de su cuerpo y por sus órganos internos, por el funcionamiento de las células, y nos dice sí, hay gente que se ocupa y se preocupa únicamente por su exterior y hace tratamientos para verse muy bien, pero funciona más, dice él, cuando usted está tratando el interior de su cuerpo, sus órganos, porque eso se refleja hacia el exterior. Pero nos insiste, no confundamos la apariencia, porque usted se puede ver muy bien por dentro y por fuera, pero por dentro, mientras tanto, sus órganos pueden estar muy mal. Incluso nos dice él, al punto que habría órganos que si usted los viera, se asustaría, órganos que están gritando, ayuda, ayuda, pero usted no se da cuenta porque usted nunca se mira al interior y solamente se queda mirando hacia el exterior. Así que nos dice él, no, él se preocupa es de lo que está en su cuerpo, de sus órganos. Lo exterior, por supuesto, podría ser complementario y se ayuda mucho con estos tratamientos porque si usted le hace bien a su interior, eso se refleja en su exterior.
Estos tratamientos supondrían, por tanto, que llegaríamos a una edad más avanzada, pero si no se hace integral, eso podría llevarnos, por ejemplo, a que una persona tuviera un cuerpo muy sano y padeciera Alzheimer porque, digamos, falleceríamos a edad más avanzada. ¿Cómo se encaja todo eso?
Bon, alors, mon collègue, docteur Dahl, ici, il veut aller un petit peu plus loin. Parce que, oui, alors si on fait un traitement anti-âge, alors on pourrait vivre plus et vivre mieux. Mais peut-être si on vit plus longtemps, on va se retrouver avec, par exemple, l'Alzheimer, où il n'y a pas de traitement. Alors comment peut-on travailler dans ce front-là, où il y a encore des problèmes que l'on peut retrouver alors que l'on a une vie plus longue?
Oui, c'est sûr que plus vous vivez vieux, plus vous risquez d'avoir... par exemple, les maladies neurodégénératives, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et justement, le but de la médecine anti-âge, c'est de repérer vos risques de maladies. Chacun a ses risques. Vous n'avez pas les mêmes risques que votre voisin parce que votre génétique est différente, parce que votre mode de vie est différent, parce que votre origine raciale ou votre origine ethnique n'est pas la même. Donc, chaque individu a sa carte de risque. Mais justement, le but de la médecine anti-âge, c'est de repérer ces risques-là et de les évaluer et d'essayer de vous empêcher de les avoir. Et même si vous les avez, vous les aurez beaucoup plus tard. Autant voulu d'avoir un Alzheimer à 60 ans, vous leur direz qu'à 80 ans, vous aurez gagné 20 ans. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de ne pas avoir de maladie, c'est pas de ne pas mourir. C'est de retarder les maladies et surtout de vous permettre d'être de plus longues années en bonne santé. Et évidemment, vous allez avoir des maladies, vous allez mourir. C'est pas l'éternité, on vous promet pas l'éternité. On vous promet...
Bueno, pues nos dice el doctor Dahl, Rafa, que pues eso es innegable. Entre más vivo usted, pues más mayor exposición tendrá a enfermedades neurodegenerativas o problemas cardíacos o una diabetes. Pero nos dice él, esto también depende de cada cual. Es un asunto genético que está relacionado con el origen étnico, que está relacionado con su estilo de vida. Pero nos dice él, ese es el objetivo precisamente de esta medicina antiedad y es poder identificar a tiempo cuáles son esos riesgos de salud que puede presentar un paciente y tratarlos. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, nos dice, en lugar de que usted empiece a tener los síntomas de Alzheimer a los 60 años, pues lo retrasa y le llegarán a los 80 años. Dice él que el trasfondo de esto es vivir
una mayor cantidad de años en buena salud o teniendo una buena salud, una medicina que permita prevenir y así permitir que usted viva más tiempo, con mejor calidad de vida. Pues yo quisiera preguntarle al doctor Dahl esto en términos prácticos, ya clínicos, ¿cómo funciona? ¿Existe ya hoy una especialidad médica que se dedique a trabajar este tipo de medicina o le va a tocar a uno acudir a un médico para el corazón, a uno para los riñones, a uno para los pulmones, a uno para el cerebro, lo cual significa que se la va a pasar uno es en exámenes y en consultorios para poder hacer un diagnóstico completo de este tipo de tratamientos? Doctor Dahl, je voudrais comprendre s'il y a déjà une spécialité médicale de la médecine anti-âge ou, par contre, on devra assister à plein de docteurs et faire plein d'examens afin de pouvoir savoir quels sont les traitements que je dois faire alors pour mon cœur et pour le sang et pour le cerveau. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, un seul docteur qui puisse faire un diagnostic à ce sujet-là?
Oui, il y a pas mal de docteurs dans le monde qui sont en train de se former dans beaucoup de pays, qui sont déjà formés. Il y a des universités qui donnent des cours, qui ont des diplômes de ce type de médecine. Ça commence à se faire un peu partout. Ça se fait au Japon, en France, je crois qu'il y a en Espagne. Voilà, il y a des formations, soit par des universités, soit par des professeurs d'université qui vont dans les congrès. C'est les médecines qui commencent à se répandre un peu partout, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, enfin partout. En Europe, États-Unis, en Asie, ça commence, à Singapour, en Japon, en Chine, etc. Partout, partout. Ça commence à être... C'est une médecine de luxe pour le moment, parce que tous ces examens coûtent cher, le traitement coûte souvent assez cher. Donc, comme tous les progrès de la médecine, ça commence par le haut de la société, ça va tout doucement descendre et imprégner toutes les couches de la société. Ça commence à se faire pour la nutrition, pour des choses comme ça. On commence à en parler pendant la télévision, dans des médias, et c'est pas toujours bien raconté, c'est pas toujours bien dit, mais l'information commence à être diffusée.
Pues nos dice que sí, que ya hay universidades que están entregando los diplomas o ofreciendo más bien este tipo de diplomas y de formación para los médicos como una especialidad, nos dice él, en Japón, en Francia, cree que en España, en el Reino Unido y en algunos lugares de Asia ya se está empezando a formar a médicos para esta especialidad. Ahora, nos dice él, esto es una medicina de lujo, esto es para gente que tiene mucha plata, toda vez que son tratamientos que resultan muy costosos, pero nos dice él, así es todo en la medicina, siempre se comienza por la parte alta de la pirámide y luego van reduciéndose los costos, pero ya empieza a darse y ya existe, solamente que hay que tener en cuenta estos, el costo de los tratamientos y que, por ejemplo, el tema nutricional es uno de los claves.
Juan Pablo, en la actualidad, normalmente la gente ya a partir de los 40 años utiliza diferentes tratamientos preventivos, antienvejecimientos, haciendo más ejercicio físico, mental, tomando vitaminas, mejor alimentación, cirugías estéticas. Lo que no entiendo es cuál es la diferencia para estas personas que se cuidan y ya están haciendo prevención si se declara el envejecimiento como enfermedad. ¿Qué le sumaría a estas personas?
Docteur Dahl, de nos jours, il y a déjà plein de gens qui, à partir de 40 ans, commencent à prendre des pilules, par exemple pour le cœur, et font plus d'exercices, et mangent mieux. Quelle est la différence entre le traitement anti-âge et ce que plein de gens font déjà pour prévenir des maladies comme celle du cœur ou une autre quantité de maladies?
Oui, le problème, c'est que quand les gens font se font par eux-mêmes des choses, ils savent pas si ça leur convient. Parce qu'ils n'ont pas été évalués. Si vous prenez des compléments alimentaires par vous-même, vous savez pas, ça peut être dangereux pour vous. Parce que peut-être que vous allez prendre, du sélénium et vous n'avez pas du tout besoin de sélénium. Vous allez prendre de la vitamine A et vous n'avez pas du tout besoin de vitamine A. Par contre, vous avez besoin de vitamine A et vous n'allez pas en prendre. Donc, il faut faire des bilans pour savoir ce qu'il vous faut. Par exemple, il y a des gens qui font du sport, et vous avez des gens qui n'ont pas besoin de faire du sport. Il y a une petite partie de la population qui n'a pas besoin de faire du sport. C'est comme l'alcool, il y a des gens qui peuvent boire un peu d'alcool, d'autres qui ne peuvent pas du tout en boire. Donc tout ça, si vous ne l'avez pas évalué, si vous le faites par vous-même, vous vous faites au hasard. Vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que vous avez juste des impressions, comme ça, dans votre corps, ou vous avez juste des sensations, et ce n'est pas la réalité. Malheureusement, la réalité de la biochimie du corona, elle est extrêmement complexe et il faut l'évaluer le plus possible avec des marqueurs, avec des analyses pour faire de l'imagerie médicale. Alors, vous pouvez faire du sport et mourir d'un infarctus à 55 ans, hein, en faisant du sport tous les jours. Parce que vous allez quand même boucher vos artères sans vous en rendre compte. Donc si vous faites pas, si vous êtes pas vraiment évalué, vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes à l'intérieur. Vous avez juste l'impression de quelque chose. Et moi, je vois des sportifs de haut niveau qui ont des artères coronaires bouchées et qui sont opérés en urgence parce qu'ils viennent chez nous, on leur détecte, et il était temps parce qu'ils allaient avoir un infarctus. Bien qu'ils fassent du sport de haut niveau, ça ne veut rien dire. Pas parce que vous êtes du sport, vous êtes en bonne santé. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas ce que la société dit, ce n'est pas les informations qu'on vous délivre en disant manger des fruits ou manger je ne sais pas quoi, qui va être bon. Si vous mangez trop de fruits par rapport à vos besoins, ça, c'est dangereux. Parce que vous allez avoir trop de fructose, vous allez avoir un peu de diabète, etc. etc. Et donc, c'est si vous mangez trop de gros poissons toute la journée, et que ça, vous allez avoir plein de mercure dans votre corps et ça devient toxique. Donc, il faut évaluer tout ça, parce que chacun a sa génétique. Chacun a ses envies, chacun a ses biochimies. Donc chacun, il y a des bases pour tous les humains. Et après, sur ces bases, chacun doit en prendre plus ou moins, et plus ou moins longtemps, etc. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai deux corrections.
Merci bien, docteur Dahl. Bonne journée à vous, au revoir.
Et vous poserez les autres questions par écrit avec Nathalie.
D'accord, merci bien, au revoir. Bueno, se retira el doctor Dahl porque se devuelve ya a su conferencia. Pero responde lo siguiente, Alba Lucía, es que el gran problema no es hacer ejercicio o no hacer ejercicio o creer que se come bien o que no se come bien. El problema es que usted no sabe si lo que está haciendo es bueno para su cuerpo particularmente. Y nos dice, usted puede estar tomando un suplemento de selenio, pero su cuerpo de repente no necesita selenio. O está tomando vitamina A y su cuerpo no necesita vitamina A. Y está dejando de tomar vitamina E, que sí es la que necesita su cuerpo. Y eso se da para todos los casos. Hay gente que necesitan hacer ejercicio de manera más intensa que otra. Hay quienes ni siquiera necesitan el ejercicio. Así como hay unos que pueden tomar alcohol con tranquilidad toda la vida, mientras que hay otros que tienen que reducir la ingesta de cada uno. Lo que pasa es que terminamos dejándonos guiar por lo que dice la sociedad. Entonces se hace todo más a lo que uno considera que está bien cuando esa no es la realidad. En este caso, la medicina antiedad, dice él, se hacen unos exámenes con unos marcadores especiales químicos que permiten hacer el análisis y de esa manera entonces saber si el hacer mucho ejercicio le sirve o no le sirve. Por ejemplo, nos dice él, hay gente que hace ejercicio todos los días y sin embargo se mueren de un infarto a los 55 años.
Pero Juan Pablo, el chequeo ejecutivo no es esa vaina que uno cada año se hace un chequeo y le dicen, mire, usted está mal aquí, bien acá, mal acá, tiene que hacer ejercicio o no, o lo contrario, no. Es la misma vaina.
Pues es que, mire, termino de darle la respuesta del doctor Dahl, doctor Casas, y es que él nos dice, si usted no está con los análisis hechos para su cuerpo en términos ya de composición química, más allá de lo que se dice comúnmente, pues se puede caer en los errores. Dice él, a usted le recomiendan que coma fruta, pero puede haber gente a la que un exceso de fruta le haga daño. O a usted le recomiendan comer peces, pero puede ser que ya en la composición química de su cuerpo, un exceso de peces, de pescado, termine haciéndole daño. Porque ya, dice él, esto va a un asunto genético. Y no es de un poquito más, un poquito menos de ejercicio, sino que tiene que ser un análisis hecho por expertos a nivel genético para saber qué es lo que su cuerpo necesita.